Bien, merci d'assister à cette table ronde autour des notions de temps et mémoire. Alors, si l'on prend des expressions de la vie de tous les jours, comme avoir bonne mémoire, perdre la mémoire, avoir la mémoire qui flanche, comme chantait Jeanne Moreau, ou tout simplement cet impératif qu'est le devoir de mémoire, on se rend compte que la notion de mémoire, qui est donc nécessairement liée au temps, est très importante pour façonner l'identité individuelle et collective. Et c'est ce dont on parlera parmi bien d'autres choses avec nos intervenants. Alors tout d'abord, Francis Eustache, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous dirigez une unité de recherche à l'INSERN et vous êtes spécialiste des différentes importances, nécessités de la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, aussi bien dans les travaux concernant la maladie d'Alzheimer que dans ses implications collectives, notamment par rapport à la mémoire historique et la mémoire collective. À sa gauche, Dominique Douet, qui est l'un de nos flèches de la science-fiction française, qui, après quelques temps, est revenu avec brio au Mouton électrique et qui a repris dans la collection Helios nombre de ses titres et a publié aussi, bien sûr, récemment des inédits comme La fenêtre de Diane ou Brume de cendre. À côté, nous avons Arnaud Bouteleux, dessinateur de bande dessinée, et qui, dans une interview justement, fait état de son intérêt pour Pinocchio, le cinéma et la bande dessinée, par rapport à son passé, par rapport à son enfance. On y reviendra, vous en parliez. Premier film vu et première bande dessinée faite en sixième, c'est bien cela ? Oui, oui, oui. Et Sylvie Lainée, là aussi l'une de assurément meilleure novelliste de science-fiction, maintes fois primée comme Dominique Douet d'ailleurs, et qui publie à chaque fois, et ces derniers temps aux éditions ActuSF, des recueils de nouvelles qui font facilement l'unanimité. Alors, ma première question concernera, Francis Eustache, la notion de mémoire. En quoi la notion de mémoire est évidemment liée au temps, mais est-elle importante dans la formation de l'identité ?
Alors, peut-être d'abord la mémoire et puis ensuite le lien avec l'identité. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez compris, moi je suis scientifique, hein, je suis pas auteur de science-fiction. Je suis scientifique et je dirige une unité de recherche qui travaille sur la mémoire humaine et les maladies de la mémoire. Donc vous voyez, je suis a priori un petit peu loin de la science-fiction, encore que, puisque effectivement la mémoire, ça va être un jeu en quelque sorte avec le temps. C'est comment en tant qu'individu, je me situe dans le temps qui passe et dans l'espace et dans un monde que j'essaie de comprendre peu ou prou. Donc c'est une réflexion évidemment qui est très importante pour moi. Et les patients qui ont une maladie de la mémoire ont cette difficulté à voyager dans le temps. On a tendance peut-être à penser que les amnésiques ont essentiellement des difficultés à récupérer leur passé, à voyager dans leur passé. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus, et c'est maintenant quelque chose de bien décrit, que les amnésiques ont également des difficultés à appréhender le futur. C'est-à-dire quand ils comprennent la notion de futur, hein, ils savent qu'il y a le passé, le présent, le futur. Par contre, ils ne peuvent pas se projeter dans le futur. Si on leur demande « qu'est-ce que vous ferez demain ?», ben on voit qu'ils sont perdus. Et demain, ils ne peuvent pas se projeter demain, comme ils ne peuvent pas se projeter dans hier. Donc c'est une préoccupation vraiment très, très importante. Et les travaux que l'on mène aujourd'hui en imagerie cérébrale, parce que je sais que l'unité que je dirige, c'est une unité d'imagerie cérébrale, ben montrent en fait que quand on demande à des personnes de récupérer des souvenirs ou au contraire de se projeter dans le futur sur des durées à peu près identiques, par exemple quelques semaines ou quelques mois, et on voit que les régions du cerveau qui sont impliquées sont relativement proches. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, le lien avec l'identité, c'est un thème assez complexe. Alors savoir comment, qui est un thème philosophique hein, au départ, comment la mémoire façonne en quelque sorte notre identité, et puis inversement, comment notre identité va façonner notre mémoire. Donc c'est un lien qui est bijectif, il n'y a pas une concordance parfaite entre l'une et l'autre. Alors là aussi, les maladies nous éclairent beaucoup, et je pense que c'est une réflexion qui est très importante, à savoir les malades qui perdent la mémoire, par exemple quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, ne va pas perdre complètement son identité. Cette personne va conserver une identité, mais une identité qui est différente de son identité antérieure. Elle va avoir tendance à conserver une identité ancienne, alors que l'identité qui se module au fil du temps qui passe va être beaucoup plus amoindrie, va être affaiblie. Hein, donc vous voyez, voilà, la relation complexe entre mémoire et identité, c'est une mémoire qui va conserver une identité un peu toujours la même, parce que mon identité, elle vient de très loin, mes valeurs, elles viennent de très loin, elles viennent de mon enfance, de mon éducation, de mes parents, de mon entourage, etc. Et cette identité, elle est relativement solide, et elle va résister à différentes pathologies, mais mon identité, c'est aussi évoluer parce que je grandis, parce que je deviens adulte, parce que je deviens quelqu'un de plus âgé, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, etc. Ça fait partie de mon identité. Et cette identité-là, hein, ce que Paul Ricoeur, le philosophe, appelait l'ipséité, elle est beaucoup plus fragile. Donc voilà, juste cette petite introduction pour vous dire qu'il n'y a pas de lien systématique, direct, entre mémoire et identité, mais que c'est un lien beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît peut-être au premier regard, et qu'il faut se méfier même des amalgames en pensant qu'un patient qui a des troubles de la mémoire n'aurait plus d'identité. Ça a potentiellement des conséquences même éthiques graves que de penser ça.
La notion de mémoire en science-fiction et de temps, évidemment, est majeure. Sylvie, vous avez dit dans une interview d'ActuSF le fait d'écrire des histoires graves les instants dans la mémoire. C'est quoi une mémoire d'auteur? C'est quoi une mémoire du temps du texte?
Quand on s'intéresse à la science-fiction, en général, on s'intéresse aussi aux technologies qui peuvent nous accompagner et changer nos vies. Et on est actuellement entouré de technologies qui ont en particulier un rôle de captation des instants, des moments et des événements. Moi, je trouve tout à fait fascinant de penser que le moment spontané qu'on est en train de partager ensemble maintenant va être sur des sites, sur YouTube, je ne sais où, pendant des années, on ne sait pas combien d'années. On est entouré de technologies qui pourraient peut-être nous aider à graver les instants, mais ces instants, ils ne font pas sens à eux tout seuls si on se contente de les capter. Aucun d'entre nous, même si on adore ce qui se passe aux Utopiales, n'ira écouter les 160 tables rondes qui se sont déroulées et les 140 auxquelles il n'a pas pu assister en prime. Donc après, on passe notre temps à trier, à se demander ce qu'on veut garder. Pour moi, tout ce qu'il y a dans l'humanité, dans la construction du rapport à la mémoire, c'est autour de cette question. Qu'est-ce que je veux garder? Sous quelle forme je veux le garder? Comment dois-je le décrire pour qu'il reste accessible? Et quel récit je dois en faire pour qu'il ait du sens? Et la construction du récit, c'est un des actes les plus complexes qui soit et qu'on ne peut pas envisager d'une manière purement technologique. Le récit est la meilleure, peut-être l'unique forme que je connaisse qui permette de donner du sens à ce que la mémoire a pu capter.
Alors Dominique, Sylvie parle de récits. Vous êtes auteur de science-fiction. Vous racontez des événements. C'est quoi avoir une mémoire du futur, une mémoire de l'avenir? C'est quoi ce paradoxe qui fait qu'un écrivain se souvient de ce qui n'a pas encore été? Comment on écrit le futur?
Je pense qu'on traduit d'abord le passé. Enfin, Je ne veux pas parler non plus en termes trop généraux. Hein. Je parle pour moi. Mais j'ai tendance à imaginer, d'ailleurs, c'est pas obligatoirement le futur. Hein. C'est donc c'est un autre monde, une autre société par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai gardé comme souvenir. Et là aussi, il y a un tri qui s'est effectué. Hein, donc je n'écris pas par rapport à tout ce que j'ai vécu. Voilà, je pense que par rapport à ta question, je peux difficilement aller plus loin, sauf à m'orienter dans une direction qui n'est peut-être pas obligatoirement celle du débat de maintenant. Donc, non, je préfère y revenir éventuellement plus tard.
En tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, ce qui apparaît, c'est la notion de vécu lié à la mémoire. Arnaud, vous êtes l'auteur d'un Pinocchio en 3 tomes, si je ne m'abuse, aux éditions
Paquet. C'est ça.
C'est... Et en préparant cette table ronde, j'ai vu que lorsque vous parlez de la bande dessinée, votre art, c'est souvent en faisant référence à votre enfance, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à ce film Pinocchio qui était votre premier film, oui. À vos premières bandes dessinées. Oui. Le rapport à la mémoire pour vous et à l'image.
Alors, bon, on va peut-être parler un peu du sens esthétique et de ce qui peut arriver parfois. Et parfois, quand on est très petit, c'est le choc esthétique. Moi, ça a été le cas avec Pinocchio, le Pinocchio que vous connaissez sans doute tous de Disney. Je l'ai vu, je devais avoir 5-6 ans. Et ce film a laissé en moi une vraie trace esthétique. Qui a perduré pendant des années et qui a été finalement un moteur de mon goût pour le dessin. Bien sûr, de ça, avec le temps, il en est resté très peu de choses. Et une fois devenu adulte, alors que j'avais commencé déjà depuis un certain nombre d'années à faire de la bande dessinée en tant que coloriste, la première œuvre sur laquelle je me suis penché, c'était ce premier film qui m'avait tant marqué. Et puis je suis remonté en fait aux origines, parce que à revoir par curiosité ce film qui avait été si important pour moi, à le revoir en tant qu'adulte, bien évidemment, je n'en avais pas du tout gardé le souvenir de ma nouvelle vision. Mon souvenir ne correspondait bien évidemment pas. Il y avait quand même des choses qui étaient restées, et notamment cette idée de l'animation du personnage et de cette joie de vivre qui était instillée dans ce personnage de Pinocchio par Disney. Et là, finalement, je me suis rendu compte que ma mémoire n'était pas du tout en phase avec ce que je croyais être ce souvenir à l'origine. Pour moi, à l'origine, ce Pinocchio, bien sûr, était très vivant, était très joyeux, mais surtout, j'avais eu le sentiment de quelque chose qui était de la féerie, réellement, du fantastique. Et en tant qu'adulte, bah, je n'ai pas retrouvé ça. En tant qu'adulte, je me suis un peu endormi devant. J'ai trouvé le récit très moraliste et finalement donnait peu de part à ce que moi m'avait marqué à l'origine, hein, c'est-à-dire l'idée de cette féerie, l'idée de cette magie, quoi. Du coup, c'est vrai que lorsque j'ai abordé le stade de la création, je me suis retourné vers l'original, vers le roman de Carlo Collodi, et en lisant le roman de Carlo Collodi, j'ai eu de nouveau une sensation esthétique forte. J'ai retrouvé finalement quelque chose de similaire, pas identique, mais quelque chose de similaire dans ce qui m'avait transporté quand j'étais petit. Et ça, ça a été le moteur, en fait, réellement pour l'écriture et la réalisation de ces 3 tomes. Et puis, il y a eu aussi, effectivement, plein d'autres surprises. Pour reparler de Pinocchio, assez rapidement une petite anecdote. Vous vous rappelez de Jiminy Cricket ? Ça vous dit quelque chose ? Ce grillon qui n'arrête pas de dire à Pinocchio « Oh là là, mais tu fais des bêtises, mon garçon, tu devrais aller à l'école, tu devrais ne pas fréquenter ce renard et ce chat qui sont des mécréants. » Et ça dure tout le film. Et puis, moi, il m'avait un peu amusé, ce grillon, quand j'étais gosse, mais effectivement, il devient assez vite casse-pied. Et en lisant le roman de Carlo Collodi, je me suis rendu compte d'un truc incroyable, c'est que le grillon ne passe pas le chapitre 3. Fin du grillon, à la fin du chapitre 3, écrasé par une boîte. Pinocchio prend une boîte et, littéralement, s'en débarrasse en l'écrabouillant. Fin de la morale dans le roman de Carlo Collodi. Et ensuite, on part dans des pérégrinations, dans vraiment une aventure complètement débridée. Pinocchio fait, bien sûr, plein de bêtises, mais vit aussi réellement de très belles aventures. Voilà. Donc cet aspect-là, je m'en suis servi pour faire la bande dessinée en question.
Le film de Disney est aussi quand même des fois étonnant. Lorsque Geppetto se rend compte que Pinocchio a disparu et qu'il part à sa recherche, il embarque l'aquarium quand même.
Oui, c'est quand
il
même
part à la recherche
étonnant.
De son
oui,
fils. Oui. Quel père quand dirait même, je vais chercher mon fils, je prends l'aquarium. C'est, bon, enfin... quoi qu'il en soit, il est question de traces, de choix, de tri. Est-ce qu'on subit, Francis Eustache, la mémoire, ou est-ce qu'on a pris sur elle ?
Ah, vous savez, je suis normand, donc je vais dire un peu des deux. On prend des décisions. On prend des décisions, on fait des choix et on oriente les choses. Mais c'est vrai qu'en même temps, la mémoire, c'est trois grands moments. C'est l'encodage, quand on enregistre. Alors c'est vrai qu'on porte attention à certaines choses. Il y a des choses qui nous intéressent. Donc on peut dire que quelque part, notre libre arbitre intervient là. Et puis il intervient aussi quand on veut récupérer des informations, des souvenirs. Entre les deux, c'est-à-dire entre la phase d'encodage et la phase de récupération, ce qu'on appelle les mécanismes de consolidation, de stockage, etc., c'est beaucoup plus mystérieux. Comment les choses se passent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on modifie, parce que toute l'entreprise de la mémoire, ça va être cela, c'est ce que vous disiez tout de suite, c'est-à-dire par rapport au numérique qui fige, bien, notre mémoire, c'est une synthèse en quelque sorte, c'est une synthèse qui doit mettre en adéquation notre vision du monde. Alors, tout à l'heure on parlait de l'identité, enfin, ça en fait partie. Mais mettre en adéquation notre vision du monde, certes, mais aussi le monde extérieur, le monde des autres. Il faut que tout ça soit relativement cohérent. Alors, en quoi ça nous échappe ? C'est que ces mécanismes de consolidation, ils se font beaucoup à un moment où notre conscience est modifiée, c'est-à-dire au moment du sommeil. Et c'est pendant ce sommeil qu'on va consolider certaines informations, qu'on édulcorer d'autres. Donc, vous voyez pourquoi je vous réponds à la façon normande. C'est-à-dire que, oui, on fait des choix. On est quand même responsable de notre mémoire et de notre oubli. Mais en même temps, les mécanismes intimes, neurobiologiques qui sont derrière, on ne les commande pas complètement. Hein, donc, voilà. J'essaie de répondre simplement, mais les questions qui me sont posées sont complexes. Parce que la mémoire par essence est une fonction extrêmement complexe. Et jusqu'à présent, je ne vous réponds qu'à partir de la mémoire individuelle, que de ma mémoire. Mais évidemment, cette mémoire, elle va être éminemment influencée par les autres, par vous. Alors, par vous, évidemment, autour de la table, parce qu'on a un statut particulier en ce moment. C'est nous qui avons le micro, vous n'avez pas le micro. Mais vous êtes quand même là. Et vous êtes quand même là, vous êtes un public et donc les souvenirs qu'on est en train de former là, on est en train de les former ensemble. Et ce soir, quand je serai tout seul, si je repense à certains souvenirs de la journée, je vais y repenser avec un certain destinataire. C'est-à-dire que, je ne suis jamais seul. Et ma mémoire n'est jamais seule. C'est toujours ma mémoire et la mémoire des autres. Et là, on accède à un niveau encore plus de complexité extrême. Et en fait, l'évolution de notre mémoire individuelle et mémoire collective, eh bien, ça va être ce jeu subtil où dans certains cas, ma mémoire est en phase avec la mémoire des autres, mais d'autres situations. Vous parliez du grand récit qui s'écrit. Il y a mon récit, et puis il y a aussi le récit plus collectif, les récits collectifs qui s'écrivent. Et là, il y a aussi beaucoup de tensions. C'est-à-dire que dans certains cas, je vais être en accord. Quand je dis « je », ce n'est pas uniquement moi. Hein, c'est l'individu va être en accord avec les récits qui s'écrivent autour de lui. Et puis, dans de nombreux autres cas, l'individu ne va pas être en accord, hein, en accord au sens en accord au sens presque musical du terme avec les autres récits qui s'écrivent. Et donc ça, c'est très important. Et ça complique évidemment beaucoup la réponse à la question que vous me posez.
Alors, Dominique, à juste titre, vous disiez que bon, il n'y a pas de science-fiction uniquement sur le futur. Là, il était question à l'instant d'accord. Je suis tombé sur une très jolie vidéo de vous qui parlait de la science-fiction comme une relation d'amour, une relation amoureuse avec ses aléas. Alors, quelle mémoire vous avez de cette première relation et quelle fraîcheur vous avez aujourd'hui maintenant, justement, à la science-fiction ?
Oh, non, mon opinion n'a pas changé. L'histoire d'amour demeure. Je ne sais pas si on fait allusion à la même vidéo. Je me souviens que j'avais
c'était
parlé
des questions de
ça.
Christine Luce, je pense, non ?
C'est possible. J'ai parfois évoqué cette image d'une histoire d'amour pour expliquer pourquoi j'avais beaucoup écrit il y a 40 ans et pourquoi je m'étais arrêté, pourquoi ensuite, très récemment, je m'étais remis à l'écriture, parce que pour moi, c'était vraiment une histoire d'amour avec les phases de désamour, de regain, de passion, etc. Voilà, c'était ça que je voulais exprimer. Alors, pour en revenir à ce que Francis Oustache a évoqué, moi, c'est un peu ce que tout à l'heure je voulais pas trop me lancer là-dedans parce que ça me paraissait au niveau de l'introduction au sujet, aller trop loin. Mais ce que disait aussi Sylvie m'interpellait, c'est-à-dire ces vidéos qui passent sur, enfin qui sont sur YouTube et qui nous permettent de revoir des instants des utopiales, enfin des instants. Ces débats, ces tables rondes. Bon, très franchement, je ne les regarde jamais. Mais aussi bien d'autres événements auxquels je suis mêlé et qui ont pu être enregistrés, j'ai aucune envie de les regarder parce que j'ai pas envie que le sentiment que je garde de ces instants-là soit changé par une vision objective entre guillemets, parce que le cinéaste n'est jamais objectif. Je pense, il y a toujours c'est lui qui est derrière la caméra. Donc voilà, je sais que je fais des choix. Dans mes souvenirs, je trie. Comme le disait Francis Eustache, il y a le tri conscient et le tri inconscient. Alors, je sais aussi qu'il y a un tri inconscient, mais je l'assume. J'assume ces choix. Et moi, je trouve vraiment, en fait, dommage qu'on veuille figer des instants. Bon, pour cela dit, je ne suis pas obligé de les regarder, donc ils sont pas réellement figés pour moi, au moins.
Alors, Sylvie, quand on écrit, c'est publié. Est-ce qu'on peut se relire ? Est-ce qu'on en reste à une mémoire de ce qu'on a écrit ? Ou est-ce que quand on est écrivain, on peut relire ces textes ? Et comment on les relit si on les relit ?
Déjà, on est obligé de relire ces textes quand il y a une réédition, quand ils renaissent dans un contexte un peu différent, on les relit. J'avoue, sans aucune vergogne, que j'ai beaucoup de plaisir à relire un texte que j'ai écrit il y a 15 ans ou il y a 20 ans, et à voir comment il résonne chez moi. Et à chaque fois, j'ai ce merveilleux sentiment de me dire, comme cet auteur me parle bien à moi, je comprends ce qu'il exprime et je ressens les émotions qu'il traversait au moment où il a écrit. Je serais incapable de dire si c'est les mêmes émotions qui renaissent d'une lecture sur l'autre, mais ce que je peux dire, c'est que, et là, mon expérience est purement personnelle, je ne sais pas comment d'autres le vivent, mais mes textes me parlent clairement à moi. C'est sans doute lié à une forme d'identité assez stable, et je pense que la mienne l'est, et que c'est un des signes qui permettent de s'en rendre compte. Mais je voulais aussi revenir sur des discussions qui, moi, me fascinent complètement et qui commençaient à émerger sur la question de la mémoire partagée. En tant qu'auteur, une des thématiques qui m'intéresse le plus, c'est de travailler sur la question du point de vue. J'adore écrire des nouvelles dans lesquelles les événements sont vécus par différents protagonistes qui leur donnent, qui ne vivent pas littéralement la même chose, au sens où je parlais du sens tout à l'heure. Il n'y a pas que le sens qui est différent. L'événement est fondamentalement différent. Le contexte de chacun des protagonistes n'est pas le même. Les raisons qui font... Vous êtes peut-être ici parce que vous aviez envie d'être assis à côté de quelqu'un que vous aimez bien et que c'était une circonstance agréable pour passer un moment avec lui, ou bien parce que vous vous intéressez au sujet de la mémoire et que vous avez envie d'entendre des chercheurs exposer leurs idées, ou bien chacun d'entre vous et chacun d'entre nous est porté par une motivation différente qui fait que l'événement... bien que partagé, est complètement différent pour chacun. Et ça, un auteur peut travailler là-dessus. Et vous commenciez à glisser vers la mémoire collective. Et je suis toujours fascinée, et j'ai beaucoup de mal avec l'idée qu'un récit collectif soit objectif. L'objectivité... Enfin, bon... Je suis fondamentalement, d'un point de vue philosophique, une constructiviste. Je ne pense pas qu'il existe une réalité objective et je crois que nous la construisons chacun à notre manière. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un récit collectif ? Les journalistes apprennent, c'est l'objectif théorique qu'ils essaient d'avoir. Et qu'est-ce que c'est que l'objectivité ? Est-ce que c'est la moyenne des subjectivités ? Ce qui n'est pas très satisfaisant comme approche, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il faut toujours savoir de quel point de vue on parle. Y compris quand nous nous racontons notre propre histoire, il faut savoir quel point de vue nous avons et quelles attentes nous avons. Est-ce que c'est de clarifier, de développer notre propre identité? Est-ce que c'est de mieux comprendre notre rapport au monde? Est-ce que c'est de connaître un objet et d'essayer d'aller plus loin dans sa découverte? Mais il faut toujours savoir pourquoi on met en place notre mémoire, même si on ne contrôle pas tout.
Vous citez ce stage, là, justement, la construction de la mémoire collective, vous y réfléchissez beaucoup.
J'apprécie beaucoup ce que vous dites. Ça fait écho à moi, une démarche qui est aussi personnelle, mais qui est aussi ma démarche scientifique. À l'origine, je suis vous l'avez compris, je suis neuropsychologue de formation, je travaille avec des patients, etc. Mais depuis une dizaine d'années, je travaille avec un historien. Donc, lui, on peut dire son job, c'est le grand récit. C'est comment se construit le grand récit. Alors, bon, il y a bien sûr une notion d'objectivité, mais il y a surtout une notion de compréhension, comment les mécanismes se mettent en place, comment certains éléments de la mémoire, au sens mémoire collective, mémoire par exemple de la France, sur un événement majeur qui est la Deuxième Guerre mondiale. Donc je fais référence à Denis Péchanski, qui est ce collègue avec qui je travaille depuis 10 ans, à partir du musée mémorial de Caen, parce que je travaille à Caen. Et donc comment ces mémoires collectives vont rehausser certains faits, pas forcément en oublier, mais vont en mettre d'autres à l'arrière-plan. Alors on prend souvent l'exemple des bombardements alliés en Normandie, qui était un événement pourtant majeur. C'est 25 000 à 30 000 morts. C'est très important. Hein, si on compte comme ça, si on fait de l'histoire quantitative, si on compte les morts. Et en même temps, c'est un événement qui est passé relativement à l'arrière-plan de la mémoire nationale. Alors pas de la mémoire des Normands. Parce que les Normands qui étaient directement...
Je précise que je suis née à Saint-Lô, capitale de la
Vous êtes née à Saint-Lô. Donc moi, je suis aussi née dans la Manche. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de points communs. Comme quoi, la mémoire, elle est partagée. Vous voyez, donc, on se retrouve. Parce qu'on est, C'est comme ça que se construit la mémoire. Hein. L'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc, on a tout de suite des affinités parce qu'on est née dans le même département, etc. Alors, c'est très intéressant. Quand j'ai commencé à discuter avec Denis Péchanski, je pensais que c'était des analogies. C'est-à-dire que moi, je m'intéressais à mémoire et oubli chez un individu sain ou un individu malade. Puis lui, il s'intéressait à ces phénomènes. La Deuxième Guerre mondiale qui mettait au deuxième plan les bombardements alliés, et puis au contraire qui rehaussait l'image du héros résistant, etc. Bon, c'est pas du tout un parti pris hein, quand je dis ça, mais c'est ces mécanismes qui nous intéressaient. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais c'est essentiel, c'est de fusionner tout ça. Parce que la mémoire, c'est tout ça. Et ma mémoire, alors c'est certes ma mémoire, comme vous l'avez très bien dit tout de suite, avec mon opinion, avec mon point de vue, avec la place où je suis situé, c'est ma mémoire. Mais en même temps, ma mémoire, elle est complètement alimentée par le partage. Et le fait que vous me dites que vous êtes né à Saint-Lô, ben je vous regarde déjà plus de la même façon. Je vais pas dire forcément la même chose. Je vais pas mémoriser tout à fait la même chose. Tout ce que vous allez dire à partir de maintenant, je vais le mémoriser différemment. C'est comme ça. Et puis au-delà, et c'est là que la distance entre l'individu et le collectif devient très intéressant, c'est que la mémoire collective, elle a aussi ses propres règles de construction. Et ces règles vont échapper en partie, aux individus. Alors ça dépend, évidemment, si on est Charles de Gaulle, on va être beaucoup plus proche de la construction de la mémoire collective. Si on est journaliste, on est déjà un petit peu plus proche. Si on est Monsieur Tout-le-Monde, on est loin de la façon dont ce récit va se construire. Et pourtant, il faut que l'on en soit conscient hein, de cette construction. Parce que cette construction, elle va prendre une place tout de même très importante dans la construction de notre mémoire individuelle. Avec, dans certains cas, des moments où on va être en phase, et puis des moments où on va pas être en phase avec elle. Et je reviens à l'exemple des Normands. Les Normands, à la Libération, ils se sont inscrits dans le grand récit. C'est-à-dire qu'ils ont reconstruit le pays, ils ont reconstruit leurs maisons, parce que les maisons étaient cassées au sens strict du terme. Donc, quelque part, ils se sont inscrits dans ce grand récit qui oubliait une partie du récit, qui oubliait le fait que ce soit les Alliés qui avaient bombardé les villes. Mais en même temps, ils ne l'avaient pas oublié à titre personnel. Ceux qui avaient laissé des parents, des frères et sœurs sous les bombardements, ils avaient conservé cette mémoire. Donc, en quelque sorte, ils avaient un jeu subtil, qui devait être subtil, entre la mémoire et l'oubli, qui n'était pas forcément une situation facile.
Dans cette construction de la mémoire collective, il y a aussi également, bien sûr, les images. On se représente peut-être à tort, d'ailleurs, je ne sais pas, les souvenirs comme des images. On a tous des images de la bande dessinée qui ont façonné la mémoire collective. Arnaud, quand vous travaillez vos images ou vos illustrations, puisque vous êtes aussi illustrateur, vous les travaillez dans une perspective d'avenir ou c'est dans le présent? Vous les travaillez comment?
Il y a une chose que, quand on est auteur, sur laquelle on travaille de façon très importante, c'est la temporalité. En fait, quand on fait du récit, on fait de la mise en scène du temps. Et la bande dessinée, l'image de bande dessinée, c'est exactement ça et pas autre chose. C'est-à-dire que quand on fait un récit, on essaye de ne pas être équivoque. On essaye d'avoir un sens qui va être perçu de façon générale par un public de façon précise. En bande dessinée, on aligne des images et le sens, l'induction de ce sens provient de la juxtaposition. C'est-à-dire que vous prenez une image seule, vous ne savez pas ce que va projeter la personne qui va la regarder, vous ne savez pas ce qu'elle va projeter dessus. Si c'est par exemple la photographie d'un bébé qui fait une grimace, eh bien ce bébé, peut-être qu'il est heureux et qu'il est en train de sourire, ou peut-être qu'il a été ébloui par le soleil, ou alors peut-être qu'il a faim et qu'il est sur le point de pleurer, vous ne savez pas. Et puis, l'image d'à côté, dans ce cas-là, quand on commence à créer de la temporalité, va créer une interaction sémantique entre ces deux images. Et si vous mettez une assiette, oui, effectivement, vous allez créer un sens de la réaction de l'enfant. Vous allez imaginer qu'il peut-être, effectivement, il a faim. Si vous mettez un grand soleil éclairé à côté, vous allez changer le sens de la même façon de cette première image. Mais le plus important, en fait, c'est pas tant la première ou la deuxième image, c'est vraiment l'interaction des deux. Et en bande dessinée, le plus compliqué, le plus dur, c'est de prévoir en tant qu'auteur cette interaction, de prévoir en fait le non-visuel, le non-montré. Et ce non-montré, eh bien, quand il est vraiment bien maîtrisé, ça fait de superbes histoires en images. Finalement, on pourrait parler de l'effet de montage. Hein. Kouletchov, c'est...
C'est l'effet Kouletchov.
Tout à fait. Hein. C'est... ce réalisateur russe a émis cette hypothèse dans les années 20, hein, qui consistait à dire que, eh bien, un plan de cinéma avec un autre plan de cinéma commençait à faire récit, mais que ce plan seul et ce plan seul ne créaient pas le récit. On restait dans un phénomène équivoque où le contexte n'était pas suffisamment marqué. Donc il y a besoin de cette temporalité, il y a besoin de dire, par exemple, un personnage dans cet endroit, et puis le même personnage dans un autre endroit. Et le fait de me proposer en juxtaposition dans un film ou dans une bande dessinée ces deux personnages, le même personnage, mais à deux endroits différents, ça a simplement permis de dire, par exemple, le temps qui passe. Et si on est capable de comprendre le contexte, s'il était, par exemple, sur un canapé et que l'image d'après, il est sur une chaise, mais dans la même pièce, on comprend que la temporalité a peut-être été assez courte. Par contre, si dans une image, il est au Japon et que dans l'image d'après, on le voit toujours avec son sac à dos, hein, dans une posture similaire, mais il est aux États-Unis, on comprend bien que son voyage, même s'il était à pied, a dû durer bien longtemps. Voilà. C'est cette mécanique, c'est le fond de... C'est notre fond de commerce, hein, en tant qu'auteur de bande dessinée. C'est là-dessus, réellement, sur quoi on travaille. Voilà.
Bah, c'est très intéressant. Dominique, vous écrivez, vous êtes lu, vous avez donc laissé des souvenirs à vos lecteurs de vos écrits. Vous avez comme ça ces calculs par rapport à ces stratégies qui sont très légitimes, hein, mais ces stratégies par rapport à vos lecteurs ou... vous procédez comment? Parce que vous allez être responsable de leurs souvenirs.
Tout à fait, mais alors, je suis complètement irresponsable, alors. Dans ma tête, hein, parce que je n'ai jamais raisonné comme ça. Mais bon,
vous m'en doutez un peu.
Bon, je ne voudrais pas dire que j'écris pour moi, mais c'est un peu ça quand même. Je suis mon premier lecteur, en fait. Non, ce qui compte pour moi, c'est d'arriver à traduire en mots ce que je ressens. Est-ce que le lecteur adhérera à ce que je décris, adhérera aux mots que j'emploie? C'est bien sûr mon problème, c'est mon problème d'auteur, mais il y a quelque chose que, personnellement, je maîtrise très mal. Alors que lorsque j'ai le choix entre plusieurs expressions, plusieurs façons de décrire une situation, il serait faux de dire que je me fiche du lecteur, du regard qui va être porté là-dessus. Mais alors, bien sûr, je fais des choix à ce moment-là, mais je choisis toujours la version qui correspond au plus près à ce que je ressens ou que j'ai ressenti lorsqu'il s'agit de souvenirs.
Sylvie, c'est à peu près la même question. écrire, c'est monopoliser, c'est prendre du temps à votre lecteur. Il va vous consacrer du temps.
Ça, c'est son problème.
Oui, c'est son problème.
Je ne porte aucune culpabilité
pas de, non, pas de
par rapport à ça.
Pas de, c'est pas un truc auquel on pense. Laisser des souvenirs de ces textes, vous êtes complètement égal.
Ah oui, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au moment où il le lit. Par contre, l'outil dont je me sers, c'est aussi à peu près ce que disait Dominique, l'outil dont je me sers pour écrire, c'est ma mémoire, tout le temps. Parce que la force d'un texte ou l'intensité de ce qu'il exprime, c'est l'émotion, les doutes, tout ce qu'on a ressenti, les vertiges. Et si on veut les écrire, même si on écrit une autre histoire que ce qu'on a vécu, on a des espèces de... On a une palette, on a du matériau de base qui nous sert à alimenter le récit qu'on veut bâtir. Et pour alimenter, ben, il faut aller chercher dans sa mémoire qu'est-ce que c'est que le sentiment amoureux, le désespoir, le chagrin, l'angoisse. Ça, je l'ai vécu comment ? Ça m'a fait quoi dans mes tripes ? Ça m'a fait quoi dans ma tête ? Et quels sont les mots pour essayer de le mettre sur le papier. Et c'est extrêmement frustrant parce que on n'a jamais les mots qu'on voudrait. On passe notre temps à tâtonner pour essayer de trouver des mots qui retranscrivent quelque chose qui s'est passé à un autre niveau que les mots. Mais sans mémoire, on ne pourrait pas écrire du tout. Après, que ce soit de la mémoire à long terme ou à court terme, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut la mémoire d'instants significatifs et variés qui ont compté, qui portaient aussi du sensoriel. Je ne sais pas si je pourrais encore écrire si je perdais l'odorat. Ça a l'air bête à dire. Mais j'ai besoin de tout le registre sensoriel pour que les textes vivent.
Alors, notre époque va laisser des souvenirs qui seront beaux ou mauvais, comme toutes les époques. Vous réfléchissez à l'importance des événements collectifs. Sylvie évoquait l'absence de la privation, le fait qu'il faut choisir, puis en même temps, il y a des amputations. Enfin, bref, comment on aborde la construction de la mémoire collective pour le futur, l'avenir ?
Déjà, je voulais juste réagir à ce que vous venez de dire parce que je trouvais que c'était très beau. Et je pense qu'on aime les récits, quoi. Enfin, l'homme a besoin de récits, quoi. Et je trouvais que c'était intéressant la façon dont vous, parce que vous, c'est votre métier de d'écrire des récits. Tant pis si ça nous fait perdre du temps à nous lecteurs. C'est du moins qu'on y trouve quelque chose et déjà un moment de plaisir. Enfin. Et je pense que c'est la mémoire, moi je réfléchis à la mémoire puis parce que tous les jours je travaille sur la mémoire, je fais que ça quoi, depuis 40 ans. Donc, je vois que c'est essentiel. Quoi. Donc vous, c'est pour écrire des romans, mais vous avez aussi votre propre construction personnelle, mais cette construction personnelle, elle est indispensable. Elle est indispensable. Et je pense que quelqu'un qui commence à se plaindre de sa mémoire, qui pressent qu'elle a potentiellement une maladie de la mémoire, je pense qu'elle pressent cela. Elle pressent qu'elle risque de perdre une faculté qui est essentielle. C'est pas se souvenir de la liste de courses, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Et alors, c'est plus ou moins exprimé, hein, c'est plus ou moins explicité, mais je pense qu'il y a un niveau de conscience derrière cela. Alors, je viens à votre question sur les liens mémoire individuelle, mémoire collective, comment on peut construire tout ça, comment on peut comprendre tout ça.
Je rajouterais, vous avez parlé d'individus qui parlent leur mémoire, hein. Une collectivité, un peuple, une nation peut perdre sa mémoire.
Alors, une collectivité peut perdre une partie de sa mémoire. Alors, pas devenir complètement amnésique comme les amnésiques auxquels je faisais référence là, mais une collectivité peut perdre, à un moment donné, peut mettre à l'arrière-plan une partie de sa mémoire. Et puis, cette mémoire, on voit par exemple pour l'Algérie tout de suite, c'est encore un épisode relativement proche de nous. C'est très compliqué. La semaine dernière, j'étais... J'étais dans le sud de la France, au pied des Pyrénées. On voit ce site où tout ce qui s'est passé avec la retirada, les Espagnols qui sont venus en France, c'est encore quelque chose qui est extrêmement douloureux, extrêmement difficile. Il faut du temps. Je pense qu'il faut dire ça dans le thème de cette conférence. Il faut du temps. La Deuxième Guerre mondiale, il a fallu 70 ans pour que François Hollande fasse un discours devant le musée mémorial de Caen. C'était l'anniversaire des 70 ans du débarquement, devant Barack Obama et un parterre de chefs d'État, pour parler des civils, vous voyez, des victimes civiles. Donc cette notion de temps est essentielle. Alors, c'est pas simplement quantitatif, hein, c'est tout ce qui se passe, c'est les générations qui changent. Généralement, il faut sauter une génération, c'est-à-dire que la première génération, les enfants des victimes n'ont pas les messages. Ils ont des messages très, très brouillés, très incomplets. Il faut passer par la génération suivante pour que, par ricochet en quelque sorte, on ait cette information. Alors, si vous voulez que je développe un tout petit peu pour comment on peut comprendre comment tout ça se construit, eh bien, comme je le disais au tout début de l'exposé, il faut pouvoir être proactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement regarder en arrière, mais il faut essayer de comprendre comment ça va se construire. Alors, c'est ce qu'on a voulu faire avec mon collègue Denis Péchanski, qui est historien, je le rappelle, à partir d'un événement qu'on considère comme un événement majeur, qui est le 13 novembre. Les attentats qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre 2015. Au moment de janvier 2015, c'est-à-dire les attentats de Charlie Hebdo, Hypercacher, Montrouge, on avait eu cette idée de transposer en quelque sorte les outils qu'on avait mis en place pour comprendre la construction des mémoires individuelles et collectives à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ensuite, on avait travaillé avec des amis américains, des collègues américains sur le 11 septembre américain, mais toujours en regardant en arrière. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que les dispositifs que l'on a, c'était de les mettre en place pour comprendre comment les choses allaient se construire. Bon, c'était ambitieux, complexe. On n'a pas bougé en janvier. Et en fait, quand il y a eu 13 novembre, on a répondu à une sollicitation d'Alain Fuchs, le PDG du CNRS, et puis ensuite du PDG de l'INSERM, Yves Lévy, et on a pu mettre en place ce dispositif. Alors, je ne peux pas vous l'expliciter en long, en large, parce qu'on arrive à la fin de la discussion, puis je ne veux pas monopoliser la parole. Mais les personnes intéressées, je vous invite à aller sur le site. De temps en temps, le numérique a du bon quand même. D'aller sur le site Mémoire 13 novembre, vous allez comprendre ce que l'on fait, ce qu'on a mis en place avec un soutien fort de nos tutelles scientifiques et puis du pays, parce qu'on est soutenu par le CGI, le Commissariat Général aux Investissements. Et on a mis en place comme ça cinq études coordonnées qui permettent de suivre pendant 10 ans à la fois des individus, des personnes, certains qui étaient dans la fosse du Bataclan, d'autres qui étaient plus loin. Et on les suit comme ça pendant 10 ans. Et on suit également la construction des mémoires collectives à partir d'une analyse des médias. C'est une analyse de type Big Data, où l'INA aspire les dépositaires des journaux télé, des journaux radio, des grands journaux au papier, des sites web, des tweets. Enfin, vous voyez, c'est pour avoir une idée de la construction de cette mémoire collective via les médias. On a aussi des analyses d'opinion, c'est un mot qui était utilisé tout à l'heure, grâce au CREDOC, et on met tout ça en parallèle. Vous voyez, on a ces constructions mémorielles que l'on étudie en parallèle.
Comme souvent, c'est en arrivant à la fin de la table ronde qu'elles commencent, quand elles sont passionnantes. En plus, on va devoir finir 2-3 minutes trop plus tôt, puisqu'il y a chevauchement de table ronde. Alors, je propose qu'on passe la parole au public. Je remercie évidemment beaucoup les intervenants. Et il nous reste 5 petites minutes de questions au public. C'était passionnant. C'est dommage que...
Bonsoir. Je doute fortement de la fiabilité de la mémoire et du coup je m'interroge sur son recours dans le système judiciaire. Si je pense par exemple à une expérience que j'avais vue qui était menée dans une classe, on avait fait venir à l'insu des élèves une personne lambda qui allait avoir une petite altercation avec le professeur. Et quelques temps, donc voilà, il la secoue un petit peu, etc. Et après, on interroge les élèves sur ce qu'ils ont vu, décrire à la personne. Et d'une part, les élèves tous soutenaient mordicus leur version. Certains disaient qu'ils avaient des lunettes, d'autres qu'ils n'en avaient pas, un t-shirt rouge, un t-shirt vert. Mais tous étaient persuadés, dans leur intime conviction, que la personne qui décrivait était celle qui était vraiment venue dans la classe. Et la deuxième chose qui a été faite également, c'était de modifier le vocabulaire de l'interrogation. Et plus on employait des mots forts, plus les élèves décrivaient une altercation puissante. Si on disait que c'était juste une dispute, ils disaient « oui, il l'a un peu secoué ». S'ils disaient que c'était une altercation, ils disaient « bah oui, il a secoué quelque chose », etc. Et également pour l'objet qu'il avait avec lui. Donc, certains décrivaient des ciseaux, d'autres un cutter, un couteau, etc. Et du coup, ça m'interroge vraiment sur les témoignages oculaires, les témoignages auditifs, voilà, le recours à une mémoire subjective dans le système judiciaire. Donc,
c'est une très très bonne question. Hein. Clairement, notamment les enfants, on peut manipuler les dires des enfants de façon relativement simple, parce que l'enfant va avoir ce qu'on appelle une amnésie de la source. Ça ne veut pas dire qu'il est amnésique au sens syndrome amnésique, mais il a cette fragilité qui rejoint le problème du temps. C'est-à-dire que quand on est enfant, on mémorise des informations, mais on a tendance à les amalgamer. Et donc, si on vous pose une question, l'enfant va répondre une première fois, on va lui reposer la question la deuxième fois, il va amalgamer l'événement initial et puis la réponse aux questions successives comme ça. Si bien qu'il est absolument persuadé que ce qu'il vous dit est la réalité. Alors, bon, c'est quelque chose qui est relativement connu maintenant, y compris des policiers qui sont amenés à poser des questions aux enfants, etc. Bon, ça ne veut pas dire que c'est simple pour autant. Mais vous avez complètement raison. Alors, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, il y a une psychologue américaine qui a écrit des livres qui ont été traduits depuis. Hein, c'est Elisabeth Loftus. Loftus, c'est écrit Loftus. Qui a écrit des livres à partir des travaux qu'elle a fait. C'est maintenant une vieille dame. Et elle a fait des livres absolument... Elle a fait des travaux absolument extraordinaires où elle montrait que les enfants... Il y avait effectivement des scènes comme ça dans des écoles où les enfants racontaient des choses totalement extravagantes qui ne s'étaient pas produites, mais simplement, les enfants racontaient ça parce qu'on leur avait posé des questions sur ce type d'événement. Et là aussi, et pour rejoindre les propos des romanciers, des dessinateurs qui sont à côté de moi, le récit est extrêmement important. Et les mots qui vont être utilisés vont être extrêmement importants. On peut faire des expériences très simples. Si vous demandez à une personne, vous lui montrez un film où il y a une voiture qui rentre dans un arbre ou dans un mur. Et puis vous lui posez la question, vous lui dites à quelle vitesse la voiture a heurté le mur, à quelle vitesse la voiture a fracassé le mur. Et là, vous allez avoir des réponses complètement différentes. Vous allez passer de 70 km/h à 120 km/h. Oui. Le simple fait d'utiliser un mot à la place d'un autre, vous allez avoir des résultats complètement différents. Et la personne est persuadée de sa réponse, de la véracité. C'est le problème de la vérité, hein, de la véracité de sa réponse. Alors, en même temps, ça ne veut pas dire qu'on raconte n'importe quoi sans arrêt. Hein, je pense que tout le challenge, c'est ça. Hein, c'est que 2 et 2, ça fait 4. Et c'est comme ça, pas autrement. Et donc, il y a bien sûr une vérité, et la collectivité, elle est aussi là. La mémoire partagée, elle est aussi là pour corriger les mémoires individuelles qui auraient tendance à fabuler. Quoi.
Oui, bonsoir. Pour venir sur ce que vous venez de dire, en fait, c'est comme quoi en fait, la mémoire est construite, et notamment pas dans notre environnement. J'étais surpris que vous ne parliez pas de la construction en fait, politique. Enfin, tous les problèmes politiques qu'il peut y avoir derrière la mémoire, notamment dans la construction d'une mémoire historique, et comme quoi finalement les institutions, au fur et à mesure de l'histoire, ont construit une mémoire nationale, en tout cas en France, quand on voit avec toute la religion républicaine pour la Troisième République, etc. Donc j'aimerais juste savoir votre opinion là-dessus, ou vous faire réagir par rapport à ça.
Bah, je pense qu'en fait, ça a été abordé notamment avec les... pas exhaustivement, c'est impossible, mais les bombardements de Normandie, la préparation justement des attentats de novembre 2015, donc ça a quand même été en partie abordé. Et là, surtout, il y a l'impératif de temps. Je suis désolé. Comme souvent, ce sont des tables rondes bonnes, donc frustrantes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Et surtout, merci à nos intervenants.